Cyril Jarnias, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en gestion de patrimoine. On va parler avec vous peut-être d'abord d'un bilan de cette année 2016. On est quasiment à la fin de l'année sur un petit peu où on en est sur cette partie-là. Et puis on parlera avec vous des perspectives 2017. Sur 2016, comment on peut analyser un petit peu ce qui s'est passé pour les épargnants?
Alors déjà, moi je dis toujours aux épargnants que pour comprendre ses placements, il faut s'intéresser à l'économie et au marché financier. Alors sur l'économie, moi je dirais ralentissement et incertitude. Ralentissement et incertitude parce que quand on regarde les prévisions de croissance, notamment avec ce qui s'est passé dernièrement avec le Brexit, qu'on regarde le FMI ou le CDE, aujourd'hui en termes de croissance, on va passer plutôt d'un 6 à un 4, c'est les prévisions à peu près, de croissance pour 2017. Pour les États-Unis, c'est encore un petit peu plus compliqué, puisqu'à l'arrivée de l'élection du président Trump pose aussi des questions de relance économique, comment ça va se passer. Aujourd'hui, on regarde les prévisions de croissance pour les États-Unis. On pourrait être à plus de 3%, avec une croissance mondiale pareille, qui va tourner autour de 3,2, 3,4, alors ça va dépendre. Voilà. Donc, on va quand même être dans un environnement qui est plutôt pas une croissance forte, plutôt du ralentissement économique, des incertitudes politiques. Donc dans cet environnement-là, on ne peut qu'aller faire le lien derrière avec les marchés financiers. Parce que derrière les marchés financiers, il y a notamment les actions. Donc la question, c'est de savoir aussi où c'est qu'on en est sur les marchés financiers.
Oui, alors là, on pourrait dire que si on regarde aux États-Unis, on a pour le Dow Jones, l'indice phare de Wall Street, on a été à des records, hein, 19 000. Voilà, on a ces niveaux spectaculaires. En même temps, bah, vous venez de le rappeler, on n'a pas une économie américaine qui est en forte croissance.
Tout à fait. Donc sur les marchés financiers, c'est vrai que c'est un petit peu le grand écart quand on regarde un petit peu les performances. Donc on est plutôt aujourd'hui sur des allocations qui seraient presque des allocations vraiment très tactiques. Parce que si on regarde ne serait-ce que le marché européen, aujourd'hui, on est au mois de novembre, le marché français, le CAC 40, est en territoire négatif. Hein. Et beaucoup d'indices européens aujourd'hui sont en territoire négatif. Si on regarde le S&P 500, on est en positif, entre 4 et 5%, ça dépend de la journée un petit peu. Donc dans un environnement qui est plus ou moins volatile suivant les annonces, et avec un facteur qui est très important, c'est les taux. Puisqu'on a eu, il ne faut pas l'oublier, derrière, on se traîne quand même une crise économique qui a commencé déjà 2007-2008, hein, je ne vais pas reparler de Lehman, tout ce qui s'est passé, les taux d'intérêt plutôt bas, voire même négatifs, et la vraie question, ça a été le rôle des banques centrales dans la relance de ces marchés financiers, notamment on sait qu'il y a eu des rachats d'actifs financiers par les banques centrales, et aujourd'hui, notamment avec l'élection de Trump, on se pose la question de la remontée des taux, et ça ne va peut-être pas forcément être favorable aux marchés financiers.
Alors là, on sait là-dessus, effectivement, c'est peut-être la première fois que ça y a un consensus, on peut le dire, sur cette partie-là, puisque là, on vient d'atteindre les 100% de consensus aux États-Unis sur le fait qu'il y aura bien une hausse de taux en décembre. Au cours des derniers mois, voire des dernières années, les consensus ont à chaque fois été démentis par la Réserve fédérale américaine. Cette fois, ça a l'air d'être le 100% voilà, garanti.
Il y a des chances, mais ça va avoir des conséquences. Et ça va avoir des conséquences. Vous parliez des marchés financiers américains qui avaient quand même pas mal monté. Remonter des taux, c'est peut-être pas forcément tant favorable que ça, globalement, pour les marchés financiers américains. Et surtout, ça va probablement recréer de la volatilité. Donc ça pose la question des actions demain pour un épargnant. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il n'y va pas? Je parlais d'allocation tactique. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que les performances, si on regarde vraiment les classes d'actifs, c'est des marchés comme la Russie, comme le Brésil. Si on regarde notamment les fonds de placement, les catégories de fonds de placement, on est entre 40 et 50% de performance. Face au risque, eh bien, on a eu tout ce qui était les minières, mines d'or. Pareil, des fonds qui font entre 45 et 50% de performance, mais ça, c'est très tactique. Globalement, l'épargnant, il n'est pas fortement investi sur le Brésil, la Russie ou les mines d'or. Hein. C'est plutôt des grands indices européens ou américains. Donc, une fois qu'on est dans cette situation-là, on doit regarder en fait les placements par catégorie de risque. L'épargnant français, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Au-delà du livret A qui fait 0,75, dont on se pose aujourd'hui comment on fait pour donner les 0,75 dans un environnement de taux bas, on a le fameux fonds en euros. L'an dernier, c'était entre 2 et 3% pour les meilleurs fonds en euros. Cette année, si on est entre 2,5% pour les meilleurs et sous les 2%, à mon avis, ce sera le bout du monde sur le fonds en euros. Donc ça ne va pas faire forcément rêver l'épargnant. Si on monte un petit peu en risque, tout ce qui
En
est...
même temps,
Oui.
juste, oui, entre 2 et 3, ils sont tellement investis dans l'assurance vie, on va dire, depuis tellement d'années, qu'on ne voit pas l'épargnant français arbitrer rapidement sur un autre produit.
Oui, mais le vrai danger aujourd'hui, ce qui est sorti, c'est qu'avec les problématiques sur les taux, ça a été la loi Sapin 2, c'est rien de nouveau sous le soleil, hein, ça existait déjà dans le code monétaire, là maintenant c'est une loi qui est vraiment très structurée. La volonté, c'est aussi de protéger tout le monde, notamment protéger l'épargnant, avec ce qui pourrait se passer au niveau des taux. Donc moi, je suis épargnant, et si j'ai tout investi sur de l'assurance vie, je comprends que je peux m'inquiéter, parce que la loi Sapin 2, elle dit quoi? Elle dit, attention, on peut stopper vos rachats.
Oui.
Voilà, donc l'épargnant qui a misé tout là-dessus, Il est vraiment dans l'expectative.
En cas de crise, voilà, il a le risque d'avoir 100 000 euros bloqués et de ne pas pouvoir les débloquer.
Exactement. Donc, dans cet environnement-là où il faut vraiment être très tactique sur les actions avec un épargnant qui n'aime pas prendre le risque, parce que c'est aussi la réalité, et de l'autre côté, des rendements sans risque qui peuvent être verrouillés en sortie ou avec de faibles rendements, ben, il faut peut-être se poser la question pour 2007, comment on réfléchit, où c'est qu'on se positionne, voilà, quelle diversification.
Alors souvent, c'est vrai qu'on a dit, on l'a dit au cours des dernières années, c'est vrai que dire à quelqu'un avoir du cash qui rapporte rien, c'est pas un conseil de gestion patrimoine aisé, parce qu'on va dire, ben non, ça rapporte pas. Dans un contexte de volatilité, dans un contexte plus incertain, est-ce que finalement avoir cette poche de cash dans la durée n'est pas une bonne tactique ?
Personnellement, je ne pense pas, parce que laisser son argent en permanence sur zéro rendement, il ne faut pas oublier que l'épargnant il vieillit. Hein. Donc il va falloir qu'il finance sa retraite derrière. Donc cet argent, il faut qu'il génère du rendement, il va en avoir besoin. Voilà. Donc face à ça, pour moi, on a parlé incertitude politique, marché financier. Maintenant, il faut parler d'actifs résilients. La vraie question pour 2017, c'est où c'est qu'on trouve le côté résilient et résistant. Alors, je vais dire cerise sur le gâteau ou tarte à la crème, bien entendu, l'or. Mais l'or, aujourd'hui, ça va être de la diversification, c'est 10% d'un patrimoine. Ça ne va pas être se balader avec des lingots d'or, ça va plutôt être tout ce qui est pièces d'or, moi j'en parle sur mon site. Tout ce qui est aujourd'hui Napoléon or, franc suisse, le vin franc suisse, avec une prime aujourd'hui qui n'est pas encore trop élevée, c'est un moyen de diversifier son patrimoine, mais ce n'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, je suis épargnant, j'ai de gros contrats d'assurance vie, je veux me diversifier. Immobilier, mais immobilier résilient, selon moi. Et pour moi, on va avoir deux typologies d'immobilier. L'immobilier avec un montage intelligent patrimonial, ça va plutôt tourner sur une insuffisance démographique et une insuffisance de biens. Ça va être tout ce qui est résidence senior, aujourd'hui c'est des millions de lits qui manquent, et ça va être tout ce qui est résidence étudiante. Sous quel format, loueur meublé non professionnel et ce qu'on appelle aussi sensibouvard. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre, premièrement, une petite réduction d'impôts, maximum 300 000 euros d'investissement, 11% sur 9 ans. Loueur meublé non professionnel, vous allez vous mettre avec un bailleur, donc les charges, vous allez les partager, vous n'allez pas être seul. Vous allez pouvoir également financer ça à crédit, parce qu'on a parlé des taux, mais les taux, c'est aussi un moyen de se financer à crédit. Et dernier élément, qui est quand même un élément important, le rendement, puisqu'aujourd'hui, net de fiscalité, on est quand même autour de 4% net de fiscalité. Et enfin, si vous ne voulez pas tout cibler sur la France, il y a une diversification. Moi, j'ai étudié les marchés en Europe et à l'international. Aujourd'hui, vous avez la Hongrie, Budapest, une fiscalité à 15%, un pays qui culturellement est intéressant et surtout sûr, on va défendre la Hongrie sur cet élément-là, et surtout des rendements qui sont attractifs, on est entre 5 et 8% de rendement net. C'est de la diversification, bien sûr, c'est comme pour l'or, vous n'allez pas tout mettre là-dessus. Mais voilà, donc pour moi, 2017, des actifs résilients, je ne dis pas non à la bourse, mais attention, il faudra être très tactique, mais néanmoins, il faut du concret, du solide, hein, du palpable. Donc ce sera, selon moi, de l'immobilier de type résidence senior, résidence étudiante, voire de l'immobilier par exemple sur Budapest, et surtout pas avec une priorité sur le placement, mais d'abord on fait une analyse patrimoniale, on va voir son conseiller en gestion de patrimoine, on se pose les questions avant de penser au placement. Mais néanmoins, il va falloir réagir parce que le contexte est compliqué.
Oui, effectivement, en ce moment, c'est compliqué. Et c'est vrai que les épargnants voient souvent le réflexe de réduction d'impôts puisqu'on est en novembre-décembre.
Tout à fait.
Avant de se poser la question patrimoniale, est-ce que j'ai besoin de l'argent, à quelle échéance ?
La retraite, par exemple, protéger les enfants, préparer la suite et se diversifier.
Merci Cyril Jarignas d'avoir fait le point avec nous.
Merci Didier.